Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 janvier 2022. C'est le premier jour après le premier meeting de la Fed de 2022. Et encore une fois, on s'est bien marré dans les marchés financiers hier. On est en pleine mode girouette, il n'y a pas d'autre terme, hein. C'est des U-turns à 180 degrés à peu près tous les jours. Donc à chaque fois, on monte et puis si on est monté au début de la séance, on se reprend une claque derrière. Ou alors, on baisse et on remonte derrière et puis on met tous les shorts à poil dans le rebond, dans la suite de la journée. Ce qui est assez phénoménal de nouveau hier, c'est que l'Europe a fait une très très belle séance en se disant, bon, de toute façon, c'est dans les prix. Qu'est-ce que finalement Monsieur Powell peut nous apporter de plus lors du meeting de la Fed ce soir? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien se passer, c'est l'occasion de démarrer un rebond solide et intéressant. Et puis, on a fait un 180 après les commentaires de la Fed. Donc en gros, l'Europe termine quasiment au plus haut de la séance, et puis ensuite on rentre chez nous comme d'habitude à 17h30, on prend le métro, on va acheter les derniers trucs pour faire à manger le soir, peut-être une bouteille de vin, un truc comme ça, tranquille, et puis on va se dire, on va regarder tranquillement les annonces de Powell à la télé tout à l'heure. Et effectivement, Powell est venu parler à la télé. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, Monsieur Powell, hier soir? Alors, tout d'abord, il a dit qu'il serait bientôt temps de commencer à monter les taux. Bientôt temps de commencer à monter les taux. Ok. Ça veut pas dire grand-chose de plus qu'avant. Ça veut dire que bientôt, peut-être, un jour, il va devoir monter les taux. Mais bientôt, c'est une notion plutôt de proximité. On sait que le prochain meeting de la Fed, c'est en mars. On sait aussi qu'ils auront fini le tapering en mars. Donc, si on est un peu logique, on va se dire que, allez, il va monter les taux en mars. Il a aussi dit qu'il allait réduire le bilan de la Fed une fois que le cycle de hausse des taux aura commencé. En gros, c'est ce qu'il a dit. En gros, il a aussi dit qu'il avait rien vu venir au niveau de la hausse de l'inflation, mais que cette fois, ils n'allaient pas se laisser faire, et puis qu'ils allaient la ramener à 2%, qu'elle le veuille ou non. Et donc, du coup, les commentaires, on va dire comme ça, hein, les commentaires de la Fed auront été considérés comme un tout petit peu plus au quiche que d'habitude. Donc, je rappelle que fin novembre, Monsieur Powell était dovish, hein, donc plutôt dans une phase de « il faut garder les taux bas pour conforter les marchés, tout va bien, et on va les aider, et on va les soutenir, et blablabli, et blablabla ». Et puis, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, le mec, il est passé de la gentille colombe au méchant faucon à hawkish. Et donc, du coup, eh ben, on parle de hausse des taux, on parle de du tapering, on parle aussi, bah, finalement, de réduire aussi le balance sheet, le bilan de la Fed. Donc, du coup, il a vraiment bien changé de positionnement. Ça fait quelques semaines qu'on se dit, ouais, il est quand même vachement plus agressif qu'avant vis-à-vis des taux. C'est pas une grande nouveauté, hein. Il faut en être conscient. C'est pas nouveau. Je veux dire, quand on voit ce qu'on nous a dit hier soir, j'ai envie de dire, c'est un gros non-event. Bon, apparemment pas, hein, parce que la psychologie moyenne de l'investisseur aujourd'hui aux États-Unis, elle est quand même vachement subtile. Parce que par rapport à ce qu'il y a de nouveau, on nous dit, oui, mais là, il a l'air quand même un tout petit peu plus hawkish qu'avant. Alors, je sais pas s'il compte le nombre de plumes sur le faucon pour pouvoir dire ici il est plus ou moins hawkish. En tout cas, là, il est plus hawkish qu'il était avant. Ça fait 10 jours qu'il a plus parlé, mais depuis qu'il a parlé la dernière fois, là, il est un tout petit peu plus hawkish. Et puis maintenant, on nous a sorti un nouveau truc, c'est qu'on a peur que finalement, la Fed fasse une erreur. Peut-être ils vont monter les taux trop vite. Peut-être ils ont déjà trop de retard sur la hausse des taux. Bref, on n'en sait rien. Mais on n'est pas en monstre confiance, hein. En tout cas, comme le marché a réagi hier, on n'était clairement pas en monstre confiance, puisqu'au moment du discours de Monsieur Powell, le marché était à plus 3% sur le Nasdaq et on finit flat. Donc on a à nouveau effacé 3% durant la séance, juste parce que finalement, il nous a dit ce qu'on savait déjà. La seule chose qu'on ne sait toujours pas, et là je reviens sur le fait qu'on a besoin de certitude, qu'on a besoin d'être réconforté, c'est à quelle vitesse il va les monter? Est-ce qu'il va être plus ou moins agressif? Et c'est là-dessus que ça se joue. Alors, pour le commentaire de hier soir, le consensus global, c'est qu'il est trop agressif et donc il pourrait monter brutalement les taux. Bon, évidemment, pas de 4%, hein, mais à la place de faire 0,25 en mars, bah là, on est de plus en plus convaincu qu'il va faire tac d'un coup 0,5. Bref, le marché s'est pris une claque hier soir. L'impact ne s'est pas fait sentir. Ce matin, les futurs sont au fond du bac, moins 1,7% sur le futur S&P ce matin. À l'heure où je vous parle, là, c'est à peu près 5h du mat. Et puis après, vous avez encore, eh bien, l'Asie qui a très très mal pris les commentaires de Monsieur Powell. Le Nikkei est en baisse de 3%. Et puis le Hang Seng à Hong Kong, pas loin non plus. Bon, la Chine, on s'en fout. De toute façon, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais en tout cas, Hong Kong et le Japon sont en forte baisse ce matin à cause des commentaires sur l'inflation de Monsieur Powell. Alors je vous montre encore une fois ce tableau qui est le tableau représentatif des dernières performances des indices durant les cycles de hausse des taux. Je vous l'ai déjà montré, on en a déjà parlé, on sait qu'à chaque fois que les taux remontent, eh bien on a cette phase d'adaptation finalement où au début on a peur, et puis après ça veut quand même dire que l'économie va relativement bien. Donc vous voyez, la seule fois finalement où ça a merdouillé cette phase de hausse des taux, c'était durant la bulle internet entre 99 et 2001, mais je crois que la situation était un tout petit peu différente. Différente déjà parce qu'à l'époque les boîtes internet gagnaient pas un centime alors qu'aujourd'hui elles gagnent des milliards. Donc grosso modo, ce qu'il faudra retenir de tout ça, c'est que aujourd'hui, si vous regardez les cycles de hausse des taux entre février et juillet 95, février 94 et juillet 95, eh bien, grosso modo, on a quand même monté de 18% sur le Nasdaq. Après, on a entre 97 et 98, là aussi, 32% sur le S&P 500, 40% sur le Nasdaq, etc., etc. Donc, vous voyez, mis à part la panne d'essence en 99-2001, mais qui est pratiquement explicable parce que finalement c'était pas du tout la même situation qu'aujourd'hui, c'était vraiment une situation particulière. Pour l'instant on n'y est pas encore, en tout cas on n'est pas dans cette situation particulière. Et puis alors la phase de hausse des taux 2008-2019, vous voyez comme elle a été vraiment impacté sur le marché, hein. 243% de hausse sur le S&P 500, bon d'accord, sur 11 ans, quand même, mais on voit quand même, et c'est là-dessus qu'il faudrait garder quand même l'esprit concentré, on s'en sort quand même à chaque fois. D'ailleurs, si on regarde les graphiques aujourd'hui, eh bien, effectivement, on a censé de nouveau faire une espèce de panique hier soir, post, annoncement de la Fed. Et on revient gentiment sur les niveaux où on a eu ce fameux reversal il y a 3 jours en arrière. Donc, regardez bien les niveaux, c'est des niveaux qui correspondent à 13725 sur le Nasdaq 100. Et puis, sur le S&P 500, le niveau qu'il faudra surveiller sera le niveau de 4219 qui sont les bas de la journée, cette énorme journée de reversal qu'on a eu l'autre jour, et c'est là qu'on ne doit pas aller casser. Et puis même si on y allait et puis qu'on testait, probablement que c'est un niveau d'achat relativement intéressant. D'ailleurs, de plus en plus de banques, de brokers et de gourous sont en train de débarquer en disant que c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut se préparer à acheter. Goldman Sachs l'a dit hier soir, s'il y a encore un peu de faiblesse, c'est buy the dip. Fundstrat, qui est une boîte d'analyse technique, estime que on va avoir un V-shaped recovery qui pourrait être impressionnant, donc buy the dip as well. Là aussi, on est super bullish sur un rebond éventuel. Et puis, alors, évidemment, il y a aussi les négatifs qui sont là, hein, puisqu'on a monsieur David Einhorn, qui est un gros hedge fund manager américain, qui lui pense que on ne voit pas arriver la récession qui va nous tomber dessus dans les quelques semaines. Pour lui, l'inflation est en train de nous amener la récession, et elle est à nos portes, donc attention, lui il est encore très prudent. Bon, je rappelle qu'il y a 24 heures, il y avait quand même des boîtes comme Goldman Sachs et Barclays qui avaient des targets 8 à 10% plus bas. Donc, on a un peu de tout dans le meilleur des mondes, mais pour l'instant, en tout cas depuis hier soir, les commentaires qu'on voit arriver depuis ce matin, c'est plutôt optimiste malgré la gueule des marchés ce matin. Et puis pour les super optimistes sur la tech, eh bien, souvenez-vous du fonds ARK Innovation de Mme Katie Wood qui se fait démonter quasiment tous les jours. Alors là, on vient de sortir un nouveau produit qui est un tracker 2 fois à la hausse sur le fonds ARK Innovation. 2 fois à la hausse. Donc ça veut dire qu'effectivement, si le ARK Innovation reprend 100%, eh bien vous ferez 200%. Et puis par contre, s'il perd 50%, eh bien vous aurez tout perdu. Résultat trimestriel comme c'est la saison, et puis comme en même temps que la Fed on peut quand même parler d'autre chose, on a eu pas mal de chiffres hier. Alors encore une fois, on voit que c'est les expectations et le futur qui préoccupent les investisseurs. Le passé on s'en fout, on a l'impression qu'on a à peu près tout intégré, que c'était plutôt pas mal, mais que maintenant c'est qu'est-ce qui va se passer qui nous préoccupe. Alors hier on a eu des exemples, hein. Teradyne, guidance, chiffre plus ou moins ok, mais guidance très négatif, moins 20% after close hier soir. Boeing, 3e deuxième perte trimestrielle de suite, donc c'était avant la séance, ça, le titre a perdu 5%. Évidemment que les prévisions sur l'aéronautique restent relativement conservatrices, donc du coup, c'est pas super bullish. Intel, vous avez encore Intel qui a annoncé ses chiffres hier soir. Alors eux, ils ont annoncé que la pression sur les marges allait continuer. C'est une stratégie volontaire parce qu'ils veulent baisser les prix au niveau des semi-conducteurs, de leurs semi-conducteurs. C'est une stratégie du CEO qui est délibérée. Mais néanmoins, comme ça devrait continuer à mettre la pression sur les marges, on n'a pas aimé. Le titre perdait 3% hier soir, after close. On voit bien qu'il y a une vraie stratégie qui est en train de se reconstruire chez Intel, mais pour l'instant, il n'y a rien d'excitant qui est venu encore exciter justement les investisseurs. Et puis Tesla, oui, c'était le titre qu'on attendait hier soir, comme on va attendre Apple ce soir. Tesla a publié des chiffres meilleurs que les attentes, des chiffres de vente excellents, mais ça on le savait déjà. Grosso modo, ce qui ressort des commentaires, et j'aime beaucoup la chose, hein, c'est que Tesla a surperformé les résultats, mais la surperformance est décevante par rapport à ce qu'elle surperforme d'habitude. Je sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, j'ai l'adresse d'un psychologue qui devrait pouvoir vous aider, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres étaient bons, mais voilà. Donc, grosso modo, le titre ne faisait rien after close. Ce qu'on a surtout retenu, c'est les déclarations de Monsieur Elon Musk, qui a toujours un truc à dire. Alors, la première chose, c'est que le Cybertruck ne sera pas livré cette année, mais que lui, il l'a testé déjà, et c'est génial. Alors, à propos du Cybertruck, perso, je préfère me péter les deux jambes comme qu'on me voyait rouler là-dedans, ça, c'est une certitude. Et puis, à côté de ça, il a dit, rassurez-vous, les gars, d'ici la fin de l'année 2022, là, Tesla 100% autonome sera disponible et vous aurez plus besoin de conduire. Alors ça, il nous le fait depuis 3 ans, comme quoi ça sera prêt. Alors je ne remets pas en question que la voiture sera peut-être prête. La question, c'est est-ce que le réseau autoroutier autour de lui sera capable de l'accepter. C'est une autre question, mais en tous les cas, il faut pas oublier de noter un truc, c'est que Monsieur Musk nous botte en touche avec cette histoire de voiture autonome depuis des mois et des années, et ça continue pour l'instant. Et donc, franchement, je me réjouis de voir si d'ici la fin de l'année, il y aura vraiment des voitures qui seront 100% autonomes sur les routes. On notera aussi que Moderna a déclaré qu'ils étaient en train de débarrer les tests pour leur booster sur Omicron. Alors ça, je crois honnêtement que tout le monde s'en fout, mais à un point hallucinant. C'est vrai que ça, sur le sujet Omicron Covid, depuis quelques temps, tout le monde s'en tape. Il n'y a plus qu'encore 2-3 ministres français qui se baladent sur les plateaux télé avec des masques et puis qui viennent dire « Attention, il y a encore un nouveau virus qui arrive !» Et puis il y a l'OMS qui annonce aussi que le prochain virus sera bien plus contagieux et bien plus mortel. Bon, les mecs, ils ont rien vu venir, mais là, ils savent comment sera le prochain, déjà. Bref, donc, du coup, on en cause beaucoup. Alors, le marché, pour l'instant, la liaison marché-Omicron, là, on a perdu le contact, hein. Voilà, donc, en résumé, eh bien, la Fed nous a dit plus ou moins ce qu'on pensait qu'elle allait dire. Donc, en gros, il n'y aura pas de grosse surprise. Ce qu'on a un petit peu peur, c'est qu'ils sont un petit peu plus au quiche. Au niveau des résultats, ça va toujours pas trop mal, parce que si on regarde les big names, Microsoft s'en est bien sorti, Tesla s'en sort pas mal. Ce soir, on aura donc Apple. On peut s'attendre que ce soit pas mal aussi. On verra de nouveau ce qu'ils vont nous annoncer, comme quoi, et qu'est-ce qu'on en aura comme interprétation. Grosso modo, ça va plutôt pas mal. Le marché est sous pression parce que la Fed nous a annoncé ça. En tout cas, les Européens vont devoir récupérer ce qu'ils ont raté dans la baisse d'hier soir. Les Asiatiques sont déjà en train de le faire ce matin. Les futurs sont fortement dans le rouge. On pourrait éventuellement de nouveau avoir une grosse journée de pression. Et puis, pourquoi pas un Xème reversal avec une clôture relativement bien établie aux États-Unis en fin de journée. Affaire à suivre, en tous les cas, on le verra aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, le marché est limite bipolaire. Mais en tout cas, croisé avec une girouette, ça c'est sûr. Donc tout peut arriver. Parce que franchement, si je fais le bilan de la journée, on nous a pas appris grand-chose. Hier soir, avec les commentaires de Monsieur Powell, j'aurais presque envie de dire tout ça pour ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque par rapport à une de mes vidéos. Je disais l'autre jour que quand la volatilité montait autour de 38-40%, généralement les traders revenaient acheter et jouaient le rebond, et il me disait ce serait pas mal qu'on ait une idée de à quel moment les traders commencent à vendre et à quel moment les traders commencent à acheter. Alors si on savait, ce serait pas mal, mais si on regarde le graphique qui s'affiche à l'instant, vous voyez que finalement, ça c'est la VIX, le graphique de la volatilité depuis 1991. Et quand vous regardez les pics de volatilité, ce qu'on appelle les spikes, en fait, les moments où ça tire un petit peu plus, vous en voyez clairement un dans la zone des 98, lors de la crise asiatique. Après, vous avez quelques spikes de volatilité étonnamment relativement maîtrisés durant le crash de l'an 2000, ce qui est relativement contrôlé. Et puis, vous avez la mère de toutes les explosions de volatilité durant la crise des subprimes en 2008-2009 avec la faillite de Lehman Brothers, où là, intraday, on était monté à plus de 90% de volatilité. Et puis finalement, les marchés étaient complètement en mode panique. Alors vous voyez qu'après, à chaque fois, eh ben, ces spikes, la ligne pointillée qu'on a au milieu correspond à 38 de vol. Et c'est plus ou moins là où on voit qu'à chaque fois, il y a des renversements de tendance. Donc c'est des marchés qui baissent fortement. Et quand on atteint ces niveaux, c'est là qu'on essaie de racheter pour jouer le rebond. Par contre, de l'autre côté, si vous voulez, c'est beaucoup plus difficile à estimer, puisqu'on voit simplement qu'on a des périodes de grand calme où il se passe rien, et puis tout d'un coup, vous avez un pic qui se déclare pour une raison ou une autre, et c'est à peu près à ce moment-là où ça démarre. Mais je peux pas vous dire à 11 de vol, on va commencer à vendre le marché, puisque vous avez des périodes où on est allé jusqu'à 10 de volatilité en 2018, et tout d'un coup, on a explosé pour remonter en direction des 32. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier ça. Il est clair que quand la volatilité s'éteint ou est vraiment très très calme, et à un moment donné, c'est incompressible. Si on avait une volatilité de zéro, ça voudrait dire que le marché ne bouge plus du tout, et donc ça ferait aucun sens. Et donc à ce moment-là, il y aura peut-être quelque chose à faire, mais ça voudrait dire aussi que bah, les gens n'achètent plus d'options, il n'y a plus d'intérêt dans le monde des dérivés. Et c'est généralement quand plus rien ne se passe que quelque chose se passe. Mais c'est difficile d'identifier les points d'accélération de la volatilité. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, effectivement, et c'est ce que les marchés font relativement bien, c'est de trouver quand il y a des exagérations de volatilité à ce moment-là, eh bien, on essaye de réagir en rachetant le marché, ou alors pour ceux qui peuvent, via les options, eh bien, vendre justement de la volatilité, parce qu'autour de 40 de vol, c'est toujours des prix relativement intéressants, puisque comme vous voyez, les fois où on va jusqu'à 80 de volatilité, c'est quand même pas tous les jours. La volatilité est un indicateur donc qu'on peut essayer d'observer pour avoir un impact immédiat de la psychologie des marchés qui pourra nous dire est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer. Il est vrai que quand on va dans les 38-40, c'est des niveaux qu'on sait que historiquement les gens regardent, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. S'il y a vraiment un gros clash, ça peut aller très très vite beaucoup plus haut, ça c'est clair. Mais bon, en général, ça dure jamais longtemps. Comme vous le voyez très bien, qu'on vient de le voir sur le graphique, c'est pas des périodes qui durent non plus 10 ou 15 ans. Voilà comment on peut essayer d'interpréter ce graphe de la vol, mais en tout cas, dans un marché, j'ai envie de dire, normal, je sais pas si ça s'applique à ce qu'on vit aujourd'hui, on peut dire que 38-40 de vol, c'est des niveaux où on peut commencer à se dire, bon, là, on marche bien sur la tête, peut-être qu'on peut commencer à mettre les mains dans la moissonneuse batteuse. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui et sur les commentaires de la Fed et sur les opinions de Monsieur Powell. On va interpréter ça ces prochaines heures et puis on va continuer à observer nos résultats trimestriels pour voir si effectivement on va construire un bottom ou si le sell-off va encore perdurer comme certains nous menacent de le faire. Bref, je vous encourage donc à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse et puis à liker cette vidéo. Et puis bah, nous, on se revoit demain pour conclure la semaine, pour voir comment ça s'est passé au niveau de Cupertino, pour voir ce qu'Apple nous a annoncé et puis pour partir en week-end. Bref, passez une très bonne journée et on se revoit demain. Bye bye!